Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Je vais rester au microphone avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, au menu, eh bien, on va parler avec un peu d'actualité universitaire. On va parler du CF Montréal, de l'Alliance de Montréal brièvement. Et également, on va parler de la finale de la Ligue Europa qui se déroulait du côté de Budapest en Hongrie entre l'AS Rome et le FC Séville. On le sait, le FC Séville qui est l'équipe la plus titrée de cette compétition-là. Qui a gagné? Qui a fait quoi? On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va commencer avec le CF Montréal. Le CF Montréal qui se déplaçait du côté de DC United. DC United, c'est une équipe quand même cette année qui fait beaucoup mieux que l'année dernière. C'est une équipe qui était l'année dernière dans les bas-fonds du classement. Et cette année, il faut le dire, là, elle fait beaucoup mieux. Et le CF Montréal est allé chercher un match nul de 2-2 du côté de DC, de District of Columbia, qui veut dire bien sûr la capitale des États-Unis d'Amérique. Donc pour ce match-là, on avait comme alignement, on avait Jonathan Sirois en gardien de but, défense centrale à trois avec George Campbell, Rudy Camacho, Joel Waterman. On avait également piston à gauche, Ariel Lassiter, l'indispensable, piston à droite, Aaron Herrera, milieu de terrain défensif, on avait Mathieu Chouinard, Victor Wanyama, et les trois de devant, eh bien c'était Bryce Duke, Lassi Lapalainen et Chinonso Ofor. Bien entendu, quand je dis piston, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est pas tout le monde qui connaît toutes les positions de soccer, le piston, en fait, c'est un joueur qui joue en attaque et en défense. Donc, quand l'équipe attaque, le piston se dirige vers l'attaque. Et quand l'équipe défend, eh bien, il revient en défense. Également, c'est un joueur aussi qui porte beaucoup le ballon vers l'avant, et qui doit avoir une certaine capacité à centrer le ballon dans la surface de réparation pour avoir peut-être des buts de la tête ou des tirs à rater. Donc, c'est quelqu'un également c'est un joueur qui doit avoir un bon cardio puisqu'il y a énormément de courses d'aller-retour, de va-et-vient. Donc, Ariel Lassiter, on le sait, c'est un joueur qu'on a eu en échange de Kamal Miller avec aussi Bryce Duke, qui est le numéro 10 du CF Montréal. Donc, le match s'est terminé par le score de 2-2, mais le CF Montréal a égalisé ça en fin de match. En début de match, c'était Donovan Pines qui a marqué à la 44e minute et ensuite à la 59e, Teodoro Cudipietro a fait 2-0. Et ensuite, à la 85e minute, Ibrahim Sunusi, qui est entré en match, lui, a marqué le but qui faisait 2-1 avec une passe de Ariel Lassiter. Et deux minutes plus tard, qui d'autre que Ariel Lassiter pour faire 2-2. Et Ibrahim Sunusi, lui, qui a fait la passe également. Donc, un but, une passe pour Lassiter et Sunusi. Sunusi, c'est un très bon résultat pour lui parce qu'on sait que c'est pas un joueur qui est tout le temps titulaire. Et là, il a pu faire briller son équipe. Donc, voilà. Maintenant, on va parler aussi de les déclarations d'après-match. On a quelques entrevues pour vous, les notes de match. Donc, tout d'abord, le défenseur Rudy Camacho, il a été nommé titulaire pour la 120e fois en MLS avec le CF Montréal. C'est le joueur qui est avec le CF Montréal depuis le plus longtemps. Et Lassiter a récolté une mention d'aide dans un deuxième match consécutif. Déclaration de match pour ce match de mercredi soir qui se passait du côté du 31 mai, mercredi soir, du côté de DC United. Eh bien, Hernan Losada a dit « On était fatigué par moment. Je voulais faire tous les changements avant le 2-0, mais le ballon ne voulait pas sortir en touche. Les changements ce soir ont fait la différence. C'est un point important car on ne concède pas les trois points à un rival direct. Ce qui veut dire que DC United et le CF Montréal vont se battre pour une place en série. Et donc, ça fait en sorte que DC United, eh bien, ne prend pas trois points au CF Montréal. Chacun en prend un. Donc ça, c'est ce que Hernan Lozada voulait dire. Cette dynamique fera du bien pour le match samedi et la finale du championnat canadien. Ça, c'est mercredi prochain. Avant le match, on avait constaté que DC jouait avec une ligne défensive très haute. On n'a pas exploité cet aspect en première mi-temps. Mais avec les changements, on a pu jouer avec plus de profondeur. On a marqué deux beaux buts en transition. J'avais même l'impression qu'on pouvait gagner le match. Ce n'est jamais facile quand tu tires de l'arrière par deux buts sur la route. Zachary Bourguiard, maintenant, il dit « On tentait de changer le match avec les changements en deuxième mi-temps. On a pu montrer dès les premières minutes de notre entrée. Ce n'est pas évident de rentrer dans des matchs comme ça. Prendre un point sur la route, c'est bon pour l'ensemble du groupe. Il n'y a que du positif. Ça montre qu'on croit tous ensemble au projet, qu'on veut chercher une place en série et qu'on a la mentalité de ne rien lâcher. » Et pour conclure, Ariel Lassiter, piston côté SF Montréal. Pour moi, le fait de passer un poste de piston élève forcément mon standard de jeu. Je dois être une deuxième option à l'attaque tout en appuyant la défensive. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais. Le piston, il joue en attaque et il doit également appuyer et aider la défensive. Il nous a suffi d'un but pour revenir dans le match. La mentalité des joueurs était excellente. Nous avons continué à nous battre. Une avance de 2-0 est très dangereuse et nous l'avons montré ce soir. Parce que c'est vrai que quand tu mènes 2-0 dans le merveilleux sport du soccer, eh bien souvent tu as tendance à avoir un but de coussin. Un coussin à un but, là, parce que c'est-à-dire que si l'équipe marque un but, tu es encore en train de mener. Mais à 1-0, par contre, quand tu mènes 1-0, là, tu joues extrêmement défensif et tu es plus conscient que tu as une avance seulement que d'un seul but. Et là, avec une avance de deux buts, c'est des fois il y a certaines équipes, surtout à domicile par exemple, qui vont un peu lâcher, qui vont donner le ballon à l'équipe adverse, qui vont arrêter de faire de la pression, de d'aller en attaque tout simplement parce qu'ils se disent ben on a une avance d'un but seulement, donc on veut vraiment la protéger. Mais quand on a deux buts, des fois c'est pas toujours aussi discipliné des équipes de soccer. Donc voilà. Maintenant, ce qui s'en vient pour le CF Montréal, eh bien, on a des matchs qui s'en viennent pas du côté du Stade Saputo. Comme cette émission est préenregistrée, eh bien, hier, le CF Montréal se déplaçait là, du côté de Philadelphie. Donc, les résultats sont disponibles sur le site du CF Montréal, puisque normalement, l'émission est faite le dimanche matin. Mais en live dans les studios de CSM, mais là, pour cette semaine, ça ne sera pas le cas. Le prochain match, c'est à Vancouver, mercredi, le 7 juin, et ça sera la finale du championnat canadien, mesdames et messieurs, tout simplement. Tout simplement. Et le CF Montréal a la chance déjà d'avoir une saison remplie de succès en remportant cette coupe face à un rival, les Vancouver Whitecaps, qui sont une bonne équipe cette saison, qui font bien les choses, il faut le dire. C'est une équipe qui l'année dernière a eu de la difficulté, mais cette année, elle est dans le haut du classement de l'Ouest. Et quand on regarde, là, ils sont 13e au classement général sur 29 équipes, ce qui est quand même très bon. Et dans l'Ouest, eh bien, ils sont 6e avec 20 points à seulement 3 points de la 4e place. Donc, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils ont beaucoup de marqueurs de buts. Ils ont notamment Brian White qui a 6 buts, Simon Becher qui en a 4, Julian Gressel en a 3, Pedro Witt en a 3. Donc on a plusieurs joueurs avec au moins 3 buts. On a 4 joueurs avec 3 buts minimum. Et donc ça sera pas facile, d'autant plus que ça va être un match tard en soirée pour le CF Montréal. Ils sont pas habitués de jouer, bien entendu, sur la côte ouest canadienne. Le stade va être plein du côté de Vancouver, ça sera pas facile. Et quand on regarde les confrontations directes en championnat canadien entre Vancouver et Montréal, en 2015, Vancouver avait gagné 2-0. En 2017, Montréal avait gagné 4-2 à domicile et Vancouver 2-1 chez eux. Ensuite de ça, il faut remonter jusqu'à 2018, Vancouver avait gagné 2-0 contre Montréal et Montréal avait gagné 1-0. Donc, beaucoup de victoires à domicile de part et d'autre entre ces deux équipes-là. Et quand on regarde les dernières confrontations de ces deux équipes-là, du côté de Vancouver, ça s'est joué cette saison. Là, le 1er avril, le CF Montréal avait perdu 5-0. Et avant ça, le dernier déplacement à Vancouver, c'était en 2021. Et il y avait une défaite de 2-0. 2020, défaite de 3-1 du côté de Vancouver. Donc, la dernière fois que le CF Montréal l'emportait à Vancouver, c'était en 2020 avec une victoire de 4-2. Et avant ça aussi, en 2018, Vancouver avait gagné contre le CF Montréal. Donc, quand ça se passe à Vancouver, là, généralement, dans les dernières confrontations, là, le CF Montréal ne gagne pas là-bas. Mais CF Montréal n'a pas besoin de gagner puisque le match nul peut les amener en prolongation et après ça au tir au but. Je crois que c'est les tirs au but direct après la séance de 90 minutes, là, après 90 minutes de temps réglementaire. Je crois qu'il y a une séance de tirs au but direct. Et donc, ça sera super important de suivre ce match-là. Ça sera diffusé sur One Soccer, chaîne de télé canadienne pour ceux qui veulent suivre le match entre le CF Montréal et les Vancouver Whitecaps. Et le prochain match, mis à part ça, côté Stade Saputo, eh bien, ça sera le 10 juin. Donc ça, c'est samedi prochain, alors que Minnesota United sera de visite au Stade Saputo. Coup d'envoi à 7h30. Et ensuite de ça, eh bien, le 21 juin, ce sera le prochain match du CF Montréal. Et il sera à domicile également contre Nashville City. Donc voilà, pas Nashville City, pardon, je pense que ça s'appelle Nashville SC, Nashville Soccer Club. Donc voilà, classement général, MLS, où en est le CF Montréal après un début de saison très ordinaire, mais qu'il ne fallait prendre à la légère parce que le CF Montréal jouait tous ses matchs ou presque à l'étranger. Eh bien, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, dans la conférence de l'Est sur 15 équipes, le CF Montréal, avec 15 matchs joués, a 19 points. Et à l'heure actuelle, le CF Montréal est la première équipe exclue des séries. Mais il faut dire que si le CF Montréal gagne le match qu'il a en main, ça l'amène à 22 points et ça l'amène à la 6e place, qui est une place qualificative, bien entendu, pour les séries éliminatoires du côté de la MLS. Donc, tout est encore jouable là, pour le CF Montréal. Il reste beaucoup de temps. Niveau statistiques chez le CF, les meilleurs buteurs de la saison, Romel Kyoto avec 3, Chinonso Fort avec 3, Chouanière 2, Lasseter 1, Waterman 1, Sunusi 1, Bryce Duke 1 et Lassie Lapalainen, un petit but. Et les meilleurs passeurs du club montréalais qui joue au Stade Saputo, Mathieu Chouanière 2 buts, 2 passes, pardon, Ariel Lassiter, 2 passes. Aaron Herrera, 2 passes. George Campbell, 1 passe. Et Ibrahim Sunusi, 1 toute petite passe. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite rubrique CF Montréal. On en reparlera la semaine prochaine, puisque l'émission la semaine prochaine sera en live sur les ondes de CSM et surtout en studio. Maintenant, on va y aller avec la Coupe de la Ligue Europa. C'est la deuxième meilleure compétition de clubs de soccer au monde. près à la Ligue des Champions. Donc, c'est les meilleures équipes européennes, mais pas tout à fait les meilleures, mais celles qui sont tout juste après. C'est-à-dire celles qui ne se qualifient pas, notamment pour la Ligue des Champions. Et là-dedans, quand il y a la Ligue des Champions, celui qui termine troisième de son groupe de Ligue des Champions est reversé dans la Ligue Europa. Et c'est ce qui s'est passé avec Séville cette année. Ils ont terminé troisième de leur groupe et donc ils ont été reversés en Ligue Europa, ce que je trouve en fait très ordinaire parce que ça veut dire que c'est une compétition de deuxième ordre, de deuxième degré. Et si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, eh bien tu la joues. Et si tu n'es pas capable de te qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tu ne devrais pas avoir un passe-droit pour aller en Ligue Europa. C'est comme en fait ça... Ça fait en sorte que ça récompense un peu l'échec. C'est mon opinion personnelle et je l'assume totalement. Il y avait l'AS Roma contre le FC Séville. José Mourinho est l'entraîneur, un entraîneur mythique, connu, respecté de tous. Il avait gagné 5 titres européens avec 5 équipes différentes. Avec Porto, la Ligue des Champions, et l'Europa League également avec Chelsea. Il a gagné, avec l'Inter Milan, il avait gagné la Ligue des Champions en 2010. Avec Manchester United, il avait gagné l'Europa League. Et avec l'AS Roma, l'année dernière, il avait gagné la Europa Conference League, ce qui était énorme pour Rome, parce que Rome, mis à part quelques coupes d'Italie, c'est pas un club qui a gagné beaucoup de titres dans leur histoire, notamment de champion d'Italie. Et donc, Mourinho leur a permis de gagner un titre européen. Et là, c'était, encore une fois, grâce à Mourinho et un bon effectif, limité, mais quand même un bon effectif, il retournait encore une fois pour une compétition continentale européenne. Et là, cette fois-ci, c'était pas la Conference League, qui est la troisième meilleure compétition d'Europe, c'est l'Europa League, c'est la deuxième meilleure compétition d'Europe. Et Séville, de l'autre côté, c'est un club espagnol de l'Andalousie, un club très titré, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ils ont gagné 7 fois le titre d'Europa League. Ils l'ont gagné en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023. Ils n'ont jamais perdu une finale. Et la deuxième équipe qu'ils ont gagné le plus souvent, c'est l'Inter Milan, Liverpool, Juventus et l'Atlético Madrid avec 3 titres chacun. Donc, le FC Séville écrase majoritairement toutes les équipes sur son passage quand elle joue en finale de l'Europa League. Ce qui est intéressant du côté de Séville, c'est que Séville, c'est un club qui a trouvé sa niche dans les années 2000 avec des titres, notamment 2 titres de Coupe d'Italie en 2007-2006. Ils avaient gagné seulement une fois la Ligue espagnole et c'était en 1946. Mais tout le monde connaît le FC Séville aujourd'hui à cause qu'ils ont gagné 7 titres de champion d'Europa League qui s'appelait avant la Coupe UEFA. Et en 2006, ils ont gagné la Super Coupe de l'UEFA. Ils ont gagné quand même 3-0 là, avec des buts de Renato, Canute et Maresca contre le FC Barcelone de Ronaldinho, de Messi, d'Eto, de Xavi, de Deco, de Marquez, de Puyol. Donc c'est un club à respecter. Et la finale s'est passée. Ça a été une finale quand même divisée en deux parties. La première mi-temps, ça a été relativement dominé par l'AS Rome. Et en deuxième mi-temps, ben là, Séville a complètement dominé de A à Z les débats. Ils ont eu les meilleures occasions. Ils ont eu beaucoup de chances ratées. Là, quand on regarde dans le match, ils ont eu notamment des chances ratées en deuxième mi-temps. Mais l'AS Roma aussi a eu 3 grosses chances ratées et les deux équipes ont frappé le poteau une fois. Problème pour l'AS Roma, c'est que ils ont des bons joueurs, mais sur le banc, c'est pas non plus le banc est un peu plus faible que celui de Séville, malheureusement. Et Paulo Dybala, qui est un de leurs meilleurs joueurs, qui est champion du monde avec l'Argentine, c'est un crack, c'est un joueur respecté, respectable. Mais par contre, le problème avec Dybala, c'est qu'il ne peut pas. Il peut rarement jouer 90 minutes dans un match, surtout dans une compétition à haute intensité comme ça. Donc, il a dû être remplacé, là, Paulo Dybala, à la 68e minute. Et après ça, eh bien, le FC Séville a quand même dominé, eu les meilleures occasions. Et par contre, ce qu'il faut mentionner, là, c'est que malgré la possession de 67% du FC Séville, l'AS Rome a manqué beaucoup d'opportunités, je l'ai répété tout à l'heure. Et surtout, il y aurait pu y avoir un penalty donné pour l'AS Rome sur une main d'un joueur de Séville dans la surface de réparation qui semblait décoller du corps. Et donc, le penalty n'a pas été donné. Et après ça, ça a été en prolongation. Il n'y a pas eu de but en prolongation. Après ça, c'est allé au tir au but. Durant le match, Paulo Dybala avait marqué le premier but à la 35e minute et but contre son camp de Mancini à la 55e minute pour le FC Séville. Et dans la séance de tir au but, eh bien, les joueurs de Séville ont tous marqué leur penalty. Et côté AS Rome, eh bien, Roger Ibanez et Gianluca Mancini ont raté leur tir de pénalité. Et donc, seulement Brian Cristante a marqué le premier but pour l'AS Rome en tir de pénalité. Et donc, le FC Séville est encore une fois champion d'Europe. Ce qui s'est passé également dans ce match-là, c'est que l'arbitre Anthony Taylor a été quand même très critiqué par les joueurs de Rome, par José Mourinho, surtout dans le stationnement après, et même à l'aéroport de Budapest, quand il a dû quitter avec sa femme et sa famille. Là, je crois que c'était sa fille qui était là, il y avait sa femme, je sais pas si sa mère était là, mais en tout cas, il avait fait le voyage avec sa famille rapprochée. Et il a été quand même très... il a dû être protégé là par les policiers hongrois pour pouvoir prendre l'avion et rentrer discrètement, parce qu'il y avait énormément de fans de l'AS Rome qui étaient frustrés et qui étaient là pour l'invectiver. Et donc Anthony Taylor a connu quand même une performance assez c'est vrai que ça a été quand même particulier sa performance, parce qu'il y a eu des cartons jaunes qui ont été donnés quand même assez très rapidement, d'autres qui n'ont pas été donnés, le tir de pénalité pour l'AS Rome aurait pu être donné parce que la main était quand même décollée du corps. Et donc, ça a été quand même une tâche sur cette finale-là, l'arbitrage un peu. Et donc, ça fait en sorte, eh bien, que le FC Séville gagne son 7e titre. Et côté AS Roma, eh bien, l'AS Roma reste avec le titre de champion de Conference League en 2022 qu'ils ont gagné contre le Feyenoord Rotterdam. Mourinho a dit après ça que l'AS Rome n'a pas tout à fait le niveau pour jouer dans la Ligue des Champions, et que c'est peut-être mieux qu'il n'y participe pas. Et également, il a dit aussi que l'arbitre Anthony Taylor devrait, lui, arbitrer seulement les matchs de Ligue des Champions, parce que l'AS Rome n'y participera pas, et qu'il fasse ses erreurs dans les matchs de la Ligue des Champions et qu'il laisse l'Europa League tranquille. Parce que là, l'AS Rome n'est pas nécessairement certain de se qualifier pour... une compétition comme l'Europa League la saison prochaine. Là, en regardant le classement à l'heure actuelle du classement italien, Rome est 6e avec 60 points et la Juventus est 7e avec 59 points. Il leur reste un match à jouer aux deux équipes. Et donc, par exemple, si Rome ne gagne pas son dernier match contre la Spezia à domicile, ce qui est quand même... ce qui serait louche un peu, parce que la Spezia, c'est une équipe de bas de classement qui est 17e, mais en même temps, la Spezia se bat avec Vérone pour être qualifié, pour ne pas se faire reléguer de la division italienne. Donc, si l'AS Rome ne bat pas Spezia lors du match du championnat italien, et que la Juventus, elle, gagne son match, eh bien, l'AS Rome jouera en Conference League. Alors que là, ils sont en Europa League, ils ont une place de qualification en Europa League, et la Juventus se déplace du côté de Udinese. Et donc, ce qui veut dire que l'AS Rome devrait normalement se qualifier encore une fois pour cette compétition qui est l'Europa League, qui est une compétition un peu plus exotique, c'est un peu plus agréable à regarder. Il y a plus d'équipes qui sont un peu plus petites, moins connues. Ça fait du spectacle, c'est pas seulement que des gros noms comme dans la Ligue des Champions. Et quand on regarde, pour conclure sur l'Europa League qui tire à sa fin, il reste la Ligue des Champions et la Conference League, bien entendu, qui s'en vient. Les meilleurs buteurs de l'Europa League cette saison ont été Marcus Rashford de Manchester United avec 6 et Victor Okoboniface de l'Union Saint-Gilloise de la Belgique. Royal Union Saint-Gilloise de la Belgique, c'est un attaquant qui vient du Nigeria. Également, Dybala avec l'AS Roma en a eu 5 et Santiago Jiménez, le Mexicain qui joue avec Feyenoord de Rotterdam, champion des Pays-Bas, a 5 buts également. Les meilleurs passeurs, on en a 4. Teddy Thauma de Saint-Gilloise, Lorenzo Pellegrini de la Roma avec 4, Evander de Mitilian au Danemark avec 4 et Loïc Lapoussin de l'Union Saint-Gilloise avec 4 passes également. Voilà, c'est ce qui conclut ce petit segment sur l'Europa League. Bravo à Séville et félicitations pour leur 7e titre de champion continental de l'Europa League. Maintenant, on va y aller avec l'Alliance de Montréal Mesdames et messieurs, c'est notre équipe locale de basketball. C'est une ligue professionnelle, la CEBL, Canadian Elite Basketball League, avec plusieurs équipes un peu partout. Niagara, Ottawa, Montréal, Saskatchewan. On a également... on en a d'autres, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Calgary, on a dans la région de Vancouver, il y en a aussi. Brampton, Howeydon, il y en a un peu partout. Donc voilà. Winnipeg, surtout Winnipeg, qui ont battu le record de foule avec plus de 7000 spectateurs. C'était un record de toute la ligue parce que eux, Winnipeg, ils jouent dans l'aréna des Jets de Winnipeg, les Winnipeg Sea Bears. Donc ça a été un record. Ça a été intéressant pour cette ligue-là puisqu'avant ça, la ligue avec Montréal et ses 3500, voire des fois 4000 spectateurs. C'était une des meilleures foules de toute la ligue. Donc là, ça appartient à Winnipeg. On va voir si ils vont remplir cet amphithéâtre de 18 000 personnes pour aller voir une équipe de CEBL, les Winnipeg Sea Bears. Et nous, notre Alliance de Montréal, eh bien, elle avait remporté ses deux premiers matchs le 26 mai et le 28 mai, 97-76 contre Ottawa et 84-69 contre Niagara. J'étais présent aux deux matchs. L'ambiance était bonne, surtout pour le match d'ouverture contre Niagara River avec une victoire par 15 points et surtout des nouvelles recrues très intéressantes. Et malheureusement, jeudi dernier, l'Alliance de Montréal a perdu son match du côté de Ottawa contre les Ottawa Black Jack et ils ont perdu par la marque de 89-75, ce qui peut arriver. Là, on s'attendait pas à ce que l'Alliance de Montréal gagne tous les matchs, surtout que l'année dernière, l'Alliance avait seulement gagné 4 matchs sur 20, donc 4 matchs, 16 défaites. Là, en 3 matchs, on est déjà à 2 victoires. Dans la défaite, Blake Francis a joué 35 minutes 8 secondes. Il a récolté 18 points. Nathan Caillot, le Montréalais, a récolté 15 points avec 33 minutes de jeu. Ahmed Hill, le capitaine, l'a recrue également côté Alliance Montréal avec ses 37 minutes, a marqué 20 points. Et Trivion Graham, ancien joueur de la NBA, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes avec 39 minutes, 38 secondes, 13 points. Et Mamadou Gueye avec 11 minutes, 3 points. Petit point. 6 rebounds, donc 6 rebonds pour Nathan Caillot, Ahmed Hill et Trivion Graham. 4 assists pour Ahmed Hill et 4 assists aussi pour Blake Francis. Côté des gagnants chez les vainqueurs, les Ottawa Blackjacks, eh bien, on a 20 points pour Jackson Rowe et 20 points pour Kadri Gray. Et donc, félicitations à eux. Ça leur permet aussi de gagner un peu de match, hein. Puis ça se passait du côté du TD Place. Et puis, il y avait une foule de seulement 1122 spectateurs côté Ottawa Blackjack. C'est peu, là, quand même. Je sais qu'Ottawa, c'est pas New York ou Toronto, mais 1122, tu sais, on pourrait s'attendre à peut-être au moins 2000, surtout qu'il y a la place, là, du côté TD Place, là. TD Place, c'est où est-ce que l'équipe junior de hockey joue du côté de Ottawa. Ça n'est pas le même aréna que les Sénateurs d'Ottawa. Voilà. Donc maintenant, on va vous donner un peu d'autres résultats côté CEBL. On va aussi vous dire que l'Alliance de Montréal sera en action dimanche le 4 juin côté Auditorium de Verdun. Donc, vous pouvez procurer des billets dès maintenant sur le site de l'Alliance. Les billets, vous le savez, je le répète à chaque émission, c'est environ une vingtaine de dollars. Ça va se passer à 4h de l'après-midi contre les Brampton Honey Badgers. Et c'est pas n'importe qui, les Brampton Honey Badgers, puisque ce sont l'équipe championne de la CEBL l'année dernière. Maintenant, autre résultat. On est en train de vous trouver ça, là. C'est un peu... voilà. Donc, les autres résultats de la semaine. Donc, le 31 mai, ça, c'était mercredi. Saskatchewan a battu Vancouver 109-85. Edmonton a battu Niagara River Lions 99-94. Brampton Honey Badgers a battu Winnipeg 75-61. Et également, les matchs, bien, dimanche, donc aujourd'hui. Aujourd'hui, en guillemets, là, parce que j'ai dit que l'émission était préenregistrée. À 4h, on a l'Alliance qui reçoit Brampton, je l'ai déjà dit. À 7h ce soir, au Toronto Pan Am Sports Center, Scarborough Shooting Stars. Ça, c'est l'équipe où est-ce que Drake a quelque part de l'équipe. Donc, il est en partie propriétaire de cette équipe-là. C'est la seule équipe, d'ailleurs, qui n'appartient pas à la Ligue. C'est Scarborough Shooting Stars. Et elle joue contre Saskatchewan Rattlers. Ça se passe du côté de Toronto Pan Am Sports Center à 7h ce soir. Donc, voilà. On a de l'action de notre équipe locale. Le CF Montréal ne joue pas cette semaine du côté de Montréal, mais l'Alliance, oui. Donc, procurez-vous les billets sur le site de l'alliancemontréal.ca. Les billets sont une vingtaine de dollars les moins chers. Et puis, partout, peu importe si vous payez 20, 30, 40 ou 50 dollars, les billets, la qualité du spectacle sera bonne, l'ambiance sera bonne, et puis surtout vous allez voir le match et vous allez voir l'action du match très facilement, parce que c'est pas grand, donc c'est quand même assez petit, donc vous êtes près de l'action peu importe vous êtes assis. Ouh. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite rubrique sur l'Alliance de Montréal. Maintenant on s'en va avec du petit Béliveau et on revient après ceci.
Papa gouvernement, on m'en a eu dans son cas. Souvent, je fais les affaires last minute. Ma point, mes income tax, ça, ça m'excite. Pis ça fait check semaine que je les ai filés. Check ma mailbox au moins 4 pour every day. C'est de l'étiquette qui ferait d'arriver. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight the party never ends. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight we gonna watch it burn. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight the city call to mes frères. Hier dit que t'sois au party jusqu'au lendemain. Puis point à worry sur les snacks ou la bouse. À cause mes poches sont pleines and I'ma blow a fuse. Va blow et fréguin deux à pièces à Walmart.
Va blow et fréguin deux à pièces à Walmart.
Va blow et fréguin quarante pièces au Taco Bell. De friggin' Supreme Gas.
For a friend, I start the friggin' Supreme Gas.
For blow a friggin' throws up, yes, a liquor store.
For blow a friggin' throws up, yes, a liquor store.
Carreg now, our morning income tax return. Tonight the party never. The city never sleeps.
C'était Petit Béliveau et sa chanson Ecom Tax Return. Donc maintenant, on va y aller avec les nouvelles universitaires en rafale. En fait, on a une nouvelle, mais c'est une grosse nouvelle, c'est une nouvelle importante. Sarah Gates et Gabriel Mastromateo ont été nommés les athlètes de l'année U-Sport 2022-2023. Donc ça, c'est tout... les mois, là, c'est-à-dire ça commence jusqu'au mois d'avril environ. C'est la saison d'automne, d'hiver et de printemps. Et donc, félicitations à ces deux athlètes-là, une masculine et une féminine. Un masculin, pardon, et une féminine. Donc, Sarah Gates est une joueuse de l'université de basketball, pardon, de l'université McMaster. Et Gabriel Mastromateo, c'est un nageur de l'université de Toronto. Eh bien, ils ont été les lauréats des prix Lois et Doug Mitchell à titre d'athlète féminine et masculin de l'année U-Sport. Les gagnants ont été dévoilés mercredi soir au centre McDougall de Calgary. Il s'agissait de cette année du 30e anniversaire de la remise de ces prix, remontant à l'édition de 1993. Donc, quand je vous dis qu'on a du sport de qualité universitaire, c'est pas des mensonges parce que ça fait quand même 30 ans que cet honneur existe. Et ça portait le nom avant de Howard Mackey. Les 8 finalistes, soit une étudiante athlète et un étudiant athlète de chacune des 4 associations de U-Sport, ont reçu une bague commémorative en or de Baron, fournisseur exclusif des bijoux commémoratifs de U-Sport. Gates et Mastromateo ont aussi reçu un trophée et une bourse de 5 000 $ afin de poursuivre des études supérieures dans une université canadienne. Les lauréats ont été choisis par les membres du conseil d'administration de la Fondation athlétique canadienne, un organisme sans but lucratif fondé pour administrer les prix et protéger l'intégrité du processus de sélection. Nous sommes tellement fiers des 8 finalistes de cette année. Ce sont des étudiants athlètes et des citoyens exceptionnels, a déclaré l'honorable Lois Mitchell. Sarah et Gabe ont chacun connu une saison exceptionnelle et ils sont d'excellents lauréats des prix Lois et Doug Mitchell. Au nom de U-Sports, je désire féliciter Sarah et Gabe comme les lauréats des prix Lois et Doug Mitchell, indique Pierre Arsenault, chef de la direction de U-Sports. U-Sports, c'est l'organisation qui régit le sport universitaire au Canada, comme la NCAA. C'est l'équivalent de la NCAA, mais au Canada. Nous avions un groupe exceptionnel de finalistes cette année avec 7 étoiles académiques canadiennes et 5 athlètes par excellence dans leur sport effectif. Cette reconnaissance est un magnifique accomplissement pour Sarah et Gabe et, bien entendu, ils vont s'en rappeler toute leur vie parce qu'ils ont dominé le sport universitaire canadien une année. Ils ont été sélectionnés comme étant la meilleure athlète féminine et le meilleur athlète masculin. Originaire de Newmarket en Ontario, Gates vient de terminer sa 5e et dernière année d'admissibilité au sein de U-Sport et elle remporte le trophée Lois Mitchell présenté chaque année à l'athlète féminine de l'année. Elle devient la première représentante des Marauders de McMaster à remporter ce prix chez les femmes. Côté Gabriel Mastromateo, qui vient de terminer sa 2e année en admissibilité au sein de U-Sport, repart avec le trophée Doug Mitchell. L'étudiant athlète de Kenora en Ontario est le premier athlète masculin de l'Université de Toronto à remporter le titre masculin de l'année de U-Sport. Les autres finalistes du prix féminin cette saison, c'était la joueuse de hockey de l'Université du Nouveau-Brunswick, Kendra Woodland de Kamloops en Colombie-Britannique, la coureuse de cross-country et d'athlétisme de l'Université Laval, Jessie Lacourse de Québec, et la joueuse de hockey de l'Université Montreal, Tatum Amy de Birtle au Manitoba. Chez les hommes, les finalistes, c'était le coureur de cross-country et d'athlétisme Andrew Peverill de Lower Sackville en Nouvelle-Écosse, le nageur de l'Université McGill, Pablo Collin de Marseille, en France, et le joueur de volleyball de l'Université de l'Alberta, Jordan Canham d'Avonmore en Ontario. Voilà, c'était les petites nouvelles côté sport universitaire canadien, parce que vous le savez que c'est une émission qui est dédiée au sport universitaire canadien et québécois quand il y en a, mais quand il n'y en a pas durant la saison morte, si on veut, c'est-à-dire durant l'été et la fin du printemps, eh bien on parle surtout de sport comme le soccer, un petit peu de basketball, et voilà. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait cette émission aujourd'hui de Universitaire en action et de soccer sport sur les ondes de CSM et de CFAQ en rediffusion. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, dimanche à 9h le matin. Bougez pas, il y a Jazzy Jazz qui s'en vient sur les ondes de CISM à 10h30 avec Monsieur Destin. Et écoutez la plus grande radio universitaire. francophone au monde, mesdames et messieurs. C'était Wissam Melster au microphone avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.
Without you.